Ceci étant dit, ce n'est pas le sujet de mon message ce matin. Ce matin, je vais vous parler quand même d'une guerre. Et non, ce n'est pas la guerre en Iran, en Israël. Mais ça, je ne suis pas pour les guerres, mais on doit quand même dire gloire à Dieu pour les événements qui se passent présentement dans notre monde. Parce que ça devrait nous réjouir que bientôt, du haut des airs, le ciel fendra et le roi de gloire, l'agneau de Dieu, apparaîtra et nous irons tous à sa rencontre avec lui dans les airs. Et éternellement, nous serons avec lui. Mais il y a une guerre en nous. Et je crois que cette guerre, c'est la plus grande guerre qui peut exister et c'est la guerre entre je et lui. La guerre entre je et lui. Et quand vous allez sortir d'ici, vous allez dire souvent, parce que je vais le dire souvent, « C'est-tu je ou bien c'est lui? » « C'est-tu je ou bien c'est lui? » Vous allez me poser la question, j'espère que vous allez vous poser la question, parce que moi je la pose souvent. « C'est-tu je ça ou c'est lui? » Ésaïe 14, verset 3 nous dit, et avant que j'oublie, hier je parlais à pasteur Silas Machette, pour ceux qui le connaissent, il vous envoie ses salutations. Il savait que je venais ici ce matin parce que je lui ai dit, évidemment. Ésaïe 14, 3, verset 12 nous dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Seigneur, on te remercie pour ta parole. On te demande que tu puisses la bénir, toucher nos cœurs, nous parler dans notre intérieur, dans le nom puissant de Jésus. Et tous on dit. Les paroles qu'on vient de lire au verset 13 ont été prononcées pour la première fois par l'ennemi de notre âme, Satan, l'orgueilleux qui, le premier après Dieu, a utilisé le mot « je ». Jusque-là, seul le grand « je suis » utilisait le « je ». Toutes les autres êtres créées avaient un cœur que pour lui. Des projets pour lui, des louanges pour lui. Mais voilà qu'un être créé inférieur à Dieu utilise le mot « je ». Il en rajoute. « Je monterai au ciel. Je élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. » Donc, je serai semblable à lui. Ce même mot « je » est prononcé chaque jour par des leaders de ce monde, par les leaders de nos pays, par des milliards d'individus, par vous et par moi. Je est malheureusement trop souvent la motivation derrière nos actions. Je vais me bâtir, je vais acquérir, je vais aller un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller plus loin, je veux voir c'est quoi là-haut. À vive allure et de façon effrénée, l'homme, il désire toujours s'élever et devenir semblable au Très-Haut, semblable à lui. On conquiert l'espace, on construit son propre royaume, on bâtit sa propre vie, seul, je, sans lui, sans Dieu. Et l'énergie, les efforts que je déploie sont énormes. Mais pour nous, enfants de Dieu, si on regarde à notre exemple suprême, Jésus, on aura vite constaté que ce qui motive Jésus, ce n'est pas le « je », mais c'est le « lui ». Jean 5, verset 19, nous dit « Jésus reprit donc la parole et il leur dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Si je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est pour ça qu'il a dit, non pas ma volonté ou la volonté de je, mais ta volonté, la volonté de lui. En d'autres mots, Jésus ne fait pas la volonté de je, mais il fait la volonté de lui qui l'a envoyé. Et les versets qu'on vient de lire sont complètement opposés, dans une autre direction, d'un autre côté. Je, lui, se dirige vers les profondeurs de la noirceur. Lui se dirige vers les hauteurs de la lumière. Et j'aimerais vous proposer ce matin que ces deux mots, « je » et « lui », sont deux adversaires qui se mènent une lutte sans merci. « Je » et « lui » sont responsables de tous les conflits de l'humanité. « Je » parle ici de tout genre de guerre que l'on retrouve dans notre monde depuis la nuit des temps. Guerre spirituelle, guerre entre nations, guerre militaire, guerre froide, guerre politique, guerre de pouvoir, guerre territoriale, guerre civile, guerre de philosophie, guerre de religion, guerre économique, guerre tribale, guerre raciale, guerre à l'église, guerre au travail, guerre à la maison, guerre à l'intérieur de nous. Au centre de toutes ces guerres, c'est « je » contre lui. La volonté de l'esprit, lui, contre la volonté de la chair, je. C'est ce que la Bible nous révèle dans les Écritures. Galates 5, 17 nous dit, « Car la chair, ou le je, a des désirs contraires à ceux de l'esprit ou à ceux de lui, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. » Afin que vous ne fassiez point ce que le je veut. Nous vivons dans un monde déchu et ce tiraillement entre je et lui, ça fait en sorte que la vie, c'est un combat. Est-ce que la vie est un combat pour vous? Il n'y a pas une classe sociale, il n'y a pas un groupe de personnes qui n'expérimentent jamais une forme de combat dans la vie. On est tous dans le même bateau. On a tous des combats. On a tous des luttes. On a tous des victoires. On a tous des défaites. On est tous appelés à lutter, à persévérer. Mais on est tous appelés à remporter cette guerre. Tous, même les chrétiens, et surtout même, je dirais, les chrétiens, parce que le chrétien, lui, est conscient de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ce n'est pas le cas de ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. On vit dans une société relative où il n'y a plus de bien, plus de mal, mais pour l'enfant de Dieu, il y a ce combat en lui entre ce qui est bien et ce qui est mal. Le chrétien fait ce qu'il ne veut pas faire, et il fait le mal qu'il ne veut pas faire, puis il ne fait pas le bien qu'il veut faire. Ça vous arrive-tu de faire le mal que vous ne voulez pas faire? Il y a toujours ce combat entre le « je » de la chair et le « lui » de l'esprit. Mais pour que l'on comprenne cette guerre, il faut regarder ou toujours garder nos yeux fixés sur lui. On doit éviter de se voir comme une victime du combat des autres. C'est la faute à ma mère. C'est la faute à mon père. C'est ma génétique. C'est la faute à ce site ou à ça. C'est la faute au gouvernement. Parce que le vrai combat, vraiment, il ne se déroule pas à l'extérieur de nous, mais il se déroule à l'intérieur de nous. Vous avez devant vous l'arrière-petit-fils, ça veut dire que mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, mes quatre frères, tous alcooliques. La seule différence que j'ai, c'est lui en moi. Sans lui en moi, je pourrais également dire, c'est pas de ma faute, je suis alcoolique. C'est la faute de mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père. Je suis né de même. Non. Il y a ce combat en moi et lui a vaincu le je. Conséquemment, ce cycle a été brisé. Mais ce combat-là a pris naissance dans l'éternité. Tous les anges se tenaient autour du trône. Ils se prosternaient devant Dieu. Ils adorèrent Dieu. Ils disaient « Amen », comme on a dit ce matin, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à lui, à notre Dieu. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Venez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui t'appartient est à toi. Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Tout appartient à lui, et lui est au-dessus de tout. 1 Chronique 29, verset 12 nous dit, « C'est de toi que viennent la richesse, la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. » Le psaume 24,7 nous dit, « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, Éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? C'est lui. Ça, c'est ma version à moi. C'est l'Éternel, fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, il le répète au verset 9, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Est-ce que c'est votre désir ce matin que le roi de gloire fasse son entrée dans votre vie, dans vos combats? Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. C'est lui le roi de gloire. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel, devant lui. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Et constamment, nous avons ce combat où nous devons prendre cette position et dire de tout notre cœur, à lui la force, à lui la louange, à lui la gloire, à lui le contrôle, à lui la puissance, à lui ma vie. Car lui est le concepteur et le créateur de toutes choses. C'est lui le grand architecte. C'est lui qui connaît toutes choses. Mais soudainement, parmi ces gens, ces anges, il y a eu un chérubin protecteur, couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, toutes des pierres que j'ai jamais appartenues, j'ai pas la richesse pour ça, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Ses tambourins et ses flûtes étaient à son service. Mais l'iniquité a été trouvée chez lui lorsque, pour la première fois, il a utilisé un mot réservé au grand « je suis »,« je ». Je monterai au ciel, je serai son égal. L'orgueil. Et la réponse de l'Éternel, « je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas gloire, ma gloire à personne, ni mon honneur à personne d'autre. Je te jette par terre, je te jette en spectacle au roi. » Le grand je suis, lui, démontre sa supériorité sur les autres je de l'univers. Évidemment, le combat entre je et lui s'est poursuivi sur cette terre. Lorsque Dieu créa l'homme et la femme, On le constate, l'Éternel donna cet ordre. « À l'homme, tu mangeras pas, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alors le serpent, le je, dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Non. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous deviendrez de plus grands je, moins dépendants de lui. » Et c'est ce que le monde veut aujourd'hui, être des plus grands je sans dépendre de lui. Savez-vous que dans les philosophies orientales, comme dans le yoga par exemple, et tout le bouddhisme, et eux, ils ne croient pas que nous sommes des pécheurs. Ils croient que nous sommes des dieux qui avons oublié que nous sommes des dieux. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, on doit faire une pratique spirituelle pour redécouvrir notre divinité. Mais cela est évidemment faux. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. » En d'autres mots, c'est pas la faute de je, c'est la faute de elle, que lui m'a donné. Blâme les autres. Prends pas sa responsabilité. Et ce combat entre je et lui s'est poursuivi dans la descendance d'Adam et de Ève. Quand, avec l'histoire de Caïn et Abel, Genèse 4 nous dit, « Mais l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. » En d'autres mots, « je » est insulté. Il a déplu l'Éternel en offrant une offrande pour se débarrasser et au lieu de se repentir, « je s'offusque ». Verset 8 nous dit, « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Je tue son frère et refuse de se repentir. Quand tu cultiveras le sol, il ne donnera pas sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me retrouvera, me tuera. » En d'autres mots, « je » veut rien savoir de vivre pour lui, mais je aimerais continuer à rester près de lui pour les bienfaits de lui, pour la protection que lui offre, mais il veut garder son gros je. C'est un combat entre je et lui. C'est un combat entre l'orgueil qui élève le soi et l'humilité qui élève lui. C'est un combat entre la victime et le responsable. Et au cours des années, j'ai divisé la société en deux types. Je résume ça vite. Le responsable et la victime. La victime, c'est la faute à elle. C'est pas moi qui l'ai tué, c'est toi qui me l'as envoyé, puis c'est la faute au gouvernement. Et le responsable dit, aurait dû dire, « J'ai tué mon frère, c'est moi, pardonne-moi Dieu. » Responsable. On assume la responsabilité de ce qui nous arrive. Et une personne responsable, c'est facile à aider. Mais une personne victime, c'est très difficile à aider parce que c'est jamais leur faute. Ne soyons pas des victimes, mais soyons des personnes responsables, transparentes devant Dieu et qui disent « Je ne veux pas vivre, mais je veux que lui vive à travers moi. » C'est un combat entre Dieu vit en moi, à travers moi, où Dieu existe pour moi. C'est un combat entre se mettre au service de Dieu ou mettre Dieu à notre service. C'est un combat entre l'homme spirituel et l'homme charnel. C'est un combat entre l'ancienne nature et la nouvelle nature. Vous savez, qui a refusé de monter dans l'arche de Noé? C'est je. C'est je qui a refusé de monter dans l'arche de Noé construit par lui. C'est je qui a construit la tour de Babel pour s'élever au-dessus de lui. C'est je de la femme de Lot qui s'est tournée vers Sodome et qui a été transformée en statue de sel. C'est le je d'Ésaü qui a laissé le droit d'aînesse à Jacob de lui pour un bol de soupe. C'est le je. C'est je qui a vendu son frère à Joseph. Car je était jaloux de l'œuvre que lui voulait faire à travers Joseph. C'est le je de la femme de Potiphar qui a demandé à Joseph de coucher avec elle, mais Joseph n'a pas laissé je dominer, mais il a laissé lui dominer et il a fui. Ça fait beaucoup de je et de lui, hein? Évidemment, suite à ça, Joseph a été emprisonné. Et tout ça pour nous rappeler que de dire non à je, parfois, ça coûte cher. De suivre Jésus, de dire non à la chair, ça coûte cher. C'est le jeu de Samson qui a révélé le secret de sa force à Dalia que Dieu lui a donné. C'est le jeu de Saül qui consulta les morts, au lieu de consulter lui. C'est je qui a crucifié lui, Jésus. Ceux qui ont tué Jésus, ce n'est pas les Juifs. C'est le je en nous. C'est le je en nous qui a abattu. Parce que je est de la même nature que le diable. Je est menteur, ivrogne, hypocrite, jaloux. Je a un plan pour chacun de nous. Je veux notre mort. Je divise, je convoite, je abuse afin d'assouvir ses passions. Je, il triche de temps en temps. Je retiens retiens au lieu de donner avec générosité. Je est cachetier. Je a une double vie. Je est charnel. Et ce combat entre je et lui, c'est notre combat intérieur. L'apôtre Paul nous le décrit très bien dans l'Épître aux Romains. Romains 7 nous dit, « Nous avons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je haïs. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Au verset 24, il nous dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire soit rendue à lui. » En d'autres mots, qui va me donner la victoire sur je? C'est lui! Qui m'aidera à vaincre ce combat? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de lui, de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de lui. Le seul qui peut vaincre le je intérieur, c'est lui. Le seul qui peut vaincre le je orgueilleux, c'est l'humble lui. Philippiens 2, 5 nous dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. » Vous voyez, Jésus, contrairement à l'ennemi n'a point voulu être égal à Dieu. Et nous non plus, ça ne devrait pas être le désir de notre cœur. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le premier jeu prononcé par Satan, et tous les jeux après ont dit, « Je monte au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus du Très-Haut. Je vais m'asseoir sur la montagne de l'Assemblée. Je vais devenir un égal à l'Éternel. » En d'autres mots, je serai semblable au grand je suis. Et évidemment, son résultat, ça a été l'abaissement. Mais Jésus, lui, qui est notre exemple, il s'est dépouillé lui-même. Il a pris une forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Et le résultat, c'est que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de toute chose. Au-dessus de tout nom. Il a choisi l'humilité, il fut élevé. Celui qui choisit l'élévation est humilié. C'est lui qui créa tout ce qui est. L'appel qu'Abraham a reçu, c'est lui. Sarah qui enfante à un âge avancé, c'est lui. Jacob, le voleur de bénédictions qui est devenu le père d'une nation, c'est lui qui l'a choisi. La colonne de nuée qui accompagnait le peuple dans le désert, le feu la nuit, c'est lui. La mer fendue en deux, c'est pas le bâton de Moïse, c'est lui. Le mur de Jéricho qui s'écroule dans les louanges du peuple, c'est lui. David qui a vaincu Goliath, c'est lui. La quatrième homme dans la fournaise ardente avec Shédrach, Meshach et Abednego, c'est lui. Celui qui libère Daniel de la fosse au lion, c'est lui. Celui qui guérit, c'est lui. Celui qui sauve, j'ai pas l'air convaincu, là. Celui qui libère, c'est lui. Celui qui console,
c'est lui.
Celui qui transforme les cœurs, le chemin, la vérité et la vie.
C'est lui.
Cette petite voix qui t'interpelle.
C'est lui.
Celui qui est ici ce matin parmi nous.
C'est lui.
C'est lui qui, étant Dieu, s'est fait homme pour apporter la délivrance et la victoire sur le jeu. Mon jeu a besoin de mourir. T'es supposé dire, puis le mien aussi. Colossiens 2, 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. De même, si on veut que lui l'emporte sur le jeu, nous devons savoir que notre vieil homme, je, a été crucifié avec lui et que ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus je qui vis, mais c'est lui qui vit en moi et à travers moi. Je a été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus je qui vis, c'est lui qui vit en moi. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair ou le jeu avec ses passions et ses désirs. Le résultat, Éphésiens 2 nous le dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » En d'autres mots, vous qui étiez morts parce que vous viviez avec un gros je dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions, pas nous sommes de leur nombre, nous étions de leur nombre. Et nous vivons autrefois selon les convoitises de je, de notre chair, accomplissant les volontés de je, de la chair, et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Mais Dieu, mais lui, dites-le, mais lui, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie à la vie avec Christ, avec lui. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en lui, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en lui, en Jésus-Christ. Verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, de lui. Car ce n'est point par les œuvres de je, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, en lui, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans ce grand combat, je contre lui, la victoire nous a été acquise en lui. L'humilité l'a remporté sur l'orgueil. Lui l'a remporté sur le jeu. On peut-tu dire ça ensemble? Lui l'a remporté sur le jeu. Et cette semaine, mais que les tentations arrivent, mais que les choix difficiles arrivent, la question qu'on doit se poser, est-ce que je vais laisser lui gagner ou est-ce que je vais laisser je gagner? Moi, ça m'arrive des fois. Tu arrives à l'épicerie, oups, clou, clou, pas le bon prix. Oh, je partirai avec, mais lui me dit, dis la caissière que c'est pas le bon prix. Quand je remplis mon rapport d'impôt, je suis vraiment obligé de tout ça, là, je. Lui me dit la vérité. Et au quotidien, on a toujours ces combats-là, ces décisions à prendre. Je passe en voiture, me crie par en criard. Au Nouveau-Brunswick, vous ne faites pas ça, mais au Québec, c'est terrible. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis-tu, t'es numéro un, mais pas avec ce doigt-là? Ou tu lui danses un sourire? Quand je marche mon chien, puis que la madame elle se fâche après moi parce que mon chien a fait 3 petites gouttes sur son gazon, est-ce que je l'insulte ou est-ce que je dis « pardonnez-moi, madame, bonne journée »? Quand je marche dans la piste cyclable, là, je prends mes exemples, qu'un fou furieux te crie après parce que je pense qu'il est dérangé mentalement, puis qu'il te dit, tu lui dis il t'insulte, qu'est-ce que tu fais? Tu l'insultes ou tu lui dis bonne journée, que Dieu te bénisse? Ça a l'air simple, mais quand ça arrive, c'est tough. Quand le service est lent, ça arrive souvent aujourd'hui, hein? Quand le service est lent, au McDonald's, au Tim Hortons, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu insultes le pauvre caissier? Il est vraiment débordé? Ou lui dis, je te souhaite une bonne journée? Dans notre quotidien, il est possible pour nous de vaincre le « je ». Si je décide de cesser de vivre pour « je », si je décide de cesser de me concentrer sur « je » et les problèmes de « je », si je réalise que « je » a été crucifié avec Christ et que ce n'est plus « je » qui vit, mais « lui » qui vit en moi, alors je peux tout par « lui » qui me fortifie. C'est là que la parole qui dit « quand je est faible, lui est fort ». Pour vaincre ce combat quotidien dans notre vie, et on se rappelle, hein, la manne, prends ta portion pour la journée. Fait qu'on vit ça une journée à la fois. Jésus, tu es ma provision pour aujourd'hui. Je m'inquiète pas pour la semaine prochaine, je m'inquiète pour aujourd'hui. Est-ce que lui va vaincre « je » aujourd'hui? Il faut que lui, pour que ça arrive, il faut qu'on dise comme Jean-Baptiste, il faut que lui croisse et que je diminue. Ça, c'est comme le mariage. Moi, j'ai resté 5-6 ans en appartement avant de me marier. Puis, je ne connaissais pas Francine, je me suis mis à la fréquenter pour un bout. Je la trouvais donc belle. Je la trouvais donc fine. Là, j'allais la visiter. Là, je revenais à la maison. Je racontais ma routine poutine. Quand on s'est mariés, il a fallu qu'elle rentre chez nous. Il fallait toujours bien que j'y fasse de la place. Puis il fallait qu'il y ait du ménage qui soit fait aussi, là. Ça, c'est comme le Saint-Esprit, hein? Quand on le reçoit dans notre vie, c'est beau venir à l'église, on s'en va à la maison, mais après ça, il faut lui faire de la place. C'est beau le fréquenter à l'église, s'en retourner à la maison, mais là, il te suit, lui-là, là. Le rendu dans ton quotidien, il faut que tu lui fasses de la place. Puis quand il rentre, il fait du ménage. Mais après ça, ils disent, comme Francine m'a déjà dit, ce serait bon que tu participes au ménage, toi, ici. Puis le Saint-Esprit, bien, des fois, c'est ça, hein? Quand quelqu'un vient au Seigneur, on voit qu'il y a un ménage qui est fait. Mais après ça, il nous dit, ce serait bon que tu participes au ménage, toi, ici. Ça, là, j'aimerais que ça sorte. C'est « je ». J'aimerais que tu donnes la place à lui. Puis quand tu te maries comme ça, là, t'as fait rentrer dans ta maison, rentrer dans ta vie, là, il faut que tu changes, là. Parce que tu gardes juste tes mêmes habitudes, ça ne marchera pas. Mais le problème avec le Saint-Esprit et Jésus, quand il rentre dans ta vie, il faut que tu changes, parce que lui, il est parfait, il ne changera pas. C'est tout toi qu'il faut qu'il change. Puis malheureusement, des fois, ce qu'on essaye de faire, on essaye de changer Dieu à notre manière de vivre. Tu devrais accepter ça, c'est légal, Dieu. La société le permet. Fait que je vais essayer d'adapter Dieu à la société d'aujourd'hui. J'aimerais que Dieu, tu t'adaptes à ma vie. Parce que ce que tu me demandes de changer, c'est comme manière de difficile. Mais c'est là que Jésus nous dit, il faut que je croisse et que je diminue. Et dans la vie, on rencontre toutes sortes de personnes. Hein? Il y a des gens que Dieu rentre dans leur vie, c'est comme s'ils restaient dans un et demi. Jésus rentre, il sort tout ce qu'il y a dans place pour y faire une belle grande place. Oui, si tu veux que je sorte ça, je le sors. Tu veux que je sorte ça? Ah oui, pas de problème, Jésus. Oui, je vais sortir ça. Il y en a d'autres qui restent dans un 10,5. Là, Jésus rentre, puis il lui dit, prendrai une petite place. Ah oh, non, pas cette chambre-là. Ça, c'est ma chambre à moi. Non, ça, c'est mon bureau. Ça, c'est la chambre des enfants. Ça, c'est là que j'entrepose j'ai un grenier. Puis je te promets que les dimanches, je vais aller te visiter. Mais pour le reste de la semaine, j'aimerais que tu restes dans le grenier. Ça ne marche pas, hein? C'est ça que je veux dire. Il faut que je prenne moins de place et que lui prenne plus de place. Ça, ça se fait une minute à la fois, une heure à la fois, un avant-midi à la fois, une journée à la fois. Puis on dit, Seigneur, je te donne plus de place. Je te donne plus de temps aussi. Parce que c'est bien beau se marier. Puis là, ta femme, elle rentre dans la maison. Là, tu continues ta routine. Tu vas voir tes chums. Tu fais tes sports. Tu fais ton skidou, ton quatre roues, ta chasse, ton bateau, ton camping. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour avoir camping, piscine. Non, pas de mes affaires. Mais à un moment donné, elle ne passe pas de temps avec moi. Elle a du temps pour tout le monde, mais pas de temps pour moi. Avec raison. Si on veut avoir une relation intime, il faut passer du temps ensemble. Pas juste quand on dort, quand on est réveillé aussi, pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager, pour pouvoir se défier, pour qu'on ressemble de plus en plus à l'autre et que l'autre nous ressemble de plus en plus. Mais là, c'est la même affaire. Jésus ne change pas. C'est tous nous autres qu'il faut qu'il change. Il faut que lui croisse. Et que je diminue. Parce que, et pour que lui croisse, puis on diminue, il faut lui donner notre cœur, oui. Une prière, c'est excellent, mais c'est le commencement. Pour que ça dure, il faut qu'on lui donne plus de place, plus de temps. Il faut que le « je » diminue et ça demande de la discipline, du travail, de la persévérance, de la consistance. Et gloire à Dieu, il nous tient la main dans tout cela. Amen. C'est pas tout par nos propres forces, mais on a une part à faire. Et on peut le faire, évidemment, en lisant sa parole, en passant du temps avec lui dans la prière. Mais la prière, on a tellement de mauvaises conceptions de tout ça. On pense absolument qu'il faut fermer la porte, se mettre à genoux et prier. Mais on peut lui prier 24 heures sur 24. Moi, ça se passe souvent, entre 5 heures et 6 heures le matin, dans mon lit. Quelqu'un a prié pour moi? Je prie pour Danny, que tu lui révèles des choses sur sa couche. Et depuis ce temps-là, c'est là que ça se passe. La majorité des messages que je reçois, que j'apporte, c'est là que je les reçois. Dans ma couche, de 5 à 6. Tout seul dans mon lit, ma femme à côté, elle ne sait pas. Je lui parle dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de lui faire du bruit, mais je lui fais la place. Au travail, je ne suis pas en train de me donner un exemple, je suis en train de donner des exemples. Je ne suis pas l'exemple. J'ai mes fautes, mes faillites, comme toutes vous autres. Même niveau, pareil. Même des fois un peu plus bas. Moi. Mon travail, Seigneur, aide-moi à faire un bon travail. C'est comme ça qu'on peut également prier. C'est pas obligé d'être à genoux, chambre fermée, c'est constamment en auto. Quel beau 2 heures j'ai passé ce matin. Lever du soleil, les prairies, je m'en vais à Edmundston voir ma famille. Gloire à Dieu. Bon temps dans la prière. C'est pas un pénible pour moi de faire 2 heures de route tout seul parce que je peux passer du temps avec le Seigneur. Et l'autre façon qu'on peut le faire aussi, c'est comme vous faites, fréquenter l'Église. Se frotter avec des personnes, des fois, qui ont des caractères un petit peu plus difficiles. Avec des personnes avec qui on a des conflits, ça fait diminuer le jeu. Puis, une des façons qu'on peut le faire, que que moi, que je trouve qui manque parfois, c'est zip it. Zip it. Zip it. C'est comme si les gens pensent qu'ils vont avoir un prix pour partager la mauvaise nouvelle le premier. Hey! Tu as entendu chose? Terrible, hein? Mais il m'avait dit de ne pas le dire. Ouais, mais je le dis rien qu'à toi, là. Je sais que tu ne le diras pas à un autre, là. Zip it. Zip it up. Et une autre façon qu'on peut le faire, c'est en partageant notre foi. En partageant notre foi. Parce que de partager notre foi, ça nous rend vrai. On raconte quelque chose qui s'est réellement passé dans notre cœur. Ça nous rend aussi vulnérables. Moi, je dis à ceux qui veulent l'entendre, j'ai trois choses qui ont changé ma vie. Un, Jésus-Christ. Deux, ma femme. Trois, mon milieu professionnel où ce que j'ai grandi. C'est ça qui a changé ma vie. C'est ça qui m'a formé. C'est ça que je suis. Mais le premier, c'est toujours Jésus-Christ. Mais on a besoin des autres aussi, parce que les autres nous frottent. Puis j'ai appris ça, moi. Une femme, ça peut redresser son homme, là. Ça fait du bien. Ça nous change. Ça nous transforme. Je te dis que le jeu, il en prend pour son coup. Quand elle dit à jeu, qu'est-ce qu'il y en est? En d'autres mots, ou en conclusion, il y a vraiment une guerre qui fait rage. Au-delà de tout ce qui se passe dans notre société, vraiment, la guerre a les premiers, premièrement, en nous, entre le « je » et le « lui ». Évidemment, cette guerre, on sait où est-ce qu'elle a pris son origine. Elle vient de la rébellion de Lucifer. Elle s'est poursuivie dans la descendance d'Adam et Ève, et nous sommes de cette descendance. Cette guerre, elle est là aujourd'hui en moi. Cette guerre, c'est toujours entre l'orgueil et l'humilité. C'est toujours entre le petit « je » et le grand « je suis ». Mais la victoire nous est acquise. La victoire sur le jeu a été vaincue par lui déjà. Amen. Avez-vous compris ça? La victoire sur le jeu a été gagnée par lui déjà. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes rachetés. Mais cette guerre-là qu'on est appelé à combattre à tous les jours, c'est pour notre sanctification. C'est pour nous rendre un peu plus comme la stature parfaite de Christ. C'est vers ça qu'on se dirige. Jésus veut nous transformer pour qu'on lui ressemble. Et qu'on puisse être comme Jésus. Dire, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Qu'on puisse être comme Jean-Baptiste. Il faut que lui croisse et que je diminue. Il faut que lui croisse et que je diminue. Choisissons de laisser lui vivre en nous afin que son nom soit glorifié à travers nous. On peut-tu dire ça ensemble? Il ne faut pas le répéter, vous ne m'écoutiez pas. Laissez-lui vivre en nous afin que son nom soit glorifié à travers nous. Je demanderai peut-être aux personnes de la louange de s'avancer. Merci Seigneur ce matin que tu es le grand je suis, que tu es celui, tu es lui qui a vaincu Seigneur sur l'ennemi. Tu es lui qui a tout créé, tu es celui qui nous a conçus, tu es celui qui nous a rachetés. Tu es lui qui a donné sa vie pour nous. On te remercie, on te rend grâce ce matin, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit aussi qui nous habite, qui nous aide dans ce combat, qui dirige nos pas, qui nous aide, Seigneur, à être une nouvelle personne transformée par la puissance du Saint-Esprit. et qui nous guide, Seigneur, dans nos réactions au quotidien, Seigneur. Seigneur, je te prie pour cette Église, Seigneur, que lui, Seigneur, puisse régner dans ce lieu, que Jésus soit le maître incontesté, le roi de gloire, le Dieu tout-puissant, que sa volonté à lui se fasse pour cette Église, Seigneur Dieu, et que tu puisses bénir chaque personne qui fréquente cette Église, Seigneur, leur donner force, courage, espoir, Seigneur, et la victoire, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Mets ta main, Seigneur, ta main glorieuse, Seigneur, sur cette assemblée, Seigneur, sur chaque personne, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, Seigneur Dieu. Alléluia, que le Saint-Esprit de Dieu puisse faire une œuvre puissante, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Père. Amen. Alléluia, Jésus.